et j'aborde maintenant la question du soupesage des hypothèses. Je vous ai mis ici l'image de Peter Parker, je pense que vous connaissez Peter Parker, hein, le célèbre Spider-Man, avec son sens araignée. Moi, ce que j'aime bien, c'est son sens araignée, qui s'agite quand il y a un danger. Bah, pas pour n'importe quel danger, c'est ça qui est bizarre, mais bon. Voilà. Et ça s'agite. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'avec ces outils-là, vous ayez votre sens qui se dresse quand il y a quelque chose qui cloche. Donc, je vous donne quelques outils. Vous allez en avoir quelques-uns là-dedans. Et sachez qu'il y en a beaucoup d'autres et des plus précis. Mais là, c'est vraiment une base généraliste. Pour prendre ça, pour faire ce petit exposé là-dessus, j'ai pris plein de sujets paranormaux. Après, je sortirai un peu du contexte paranormal ou mystérieux. Parce que je ne veux pas m'encrouter dedans, mais je sais qu'on m'en demande beaucoup. Par contre, n'attendez pas, je vous donne des réponses à tout. J'ai envie de vous donner envie d'aller farfouiller par vous-même. Donc, je vous donnerai quelques petites pistes au passage. Et j'aborde ça par le versant crop circles. Les crop circles, qu'on appelle aussi plus scientifiquement les agroglyphes, vous savez, ce sont les fameux dessins dans le blé, de forme géométrique, souvent dans le blé, enfin dans les céréales, qui sont réalisés de nuit, nuitamment, et que l'on découvre le matin et qui font fantasmer pas mal de gens, à commencer par Shyamalan, qui est le réalisateur du film Signs, dans lequel jouait Mel Gibson. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Assez marrant. Les crop circles, vous avez une pléthore un peu partout qui ont été décrites depuis 25 ans à peu près. Et sur Internet, vous allez surfer, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. En voici quelques-uns. Là, l'étude des crop circles, elle s'appelle la céréalogie. Je me suis dit que ce terme vous ferait plaisir. Et donc, vous en avez plein, et des vachement compliqués. Hein. Tellement compliqués que, si vous regardez ici, par exemple, dans celui-ci, qui est le bonhomme Roswell, assez connu, il y a un code binaire qui est dans ce disque, qui a été décrypté par des étudiantes de pharmacie, il y a une dizaine d'années. Il y a vraiment un message qui est disposé dedans. Donc, c'est des formes géométriques dans le blé qui, parfois, contiennent des messages. Alors, vous avez des sites entiers qui recensent ça, et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il faut se méfier d'un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est l'exposition sélective. Nous avons tendance à nous exposer médiatiquement qu'à des choses qu'on aime bien. On le fait parfois sciemment, et parfois pas vraiment sciemment. Quand on le fait sciemment, c'est quand, par exemple, si on aime bien les trucs bizarres, on va aller lire les revues bizarres, on va aller farfouiller de la littérature bizarre, ou des sites bizarres, ou des sites un peu complotistes, etc. On aime bien, donc on va accumuler des demi-preuves dans le sens de ce qu'on aimerait bien. On s'expose sélectivement à ça. L'autre manière qui est moins consciente, bien souvent parce que beaucoup d'étudiants ne maîtrisent pas l'outil informatique qu'ils utilisent, c'est le fait de se connecter avec des identifiants, de se connecter à un compte Gmail, par exemple, puis après surfer sur un moteur de recherche comme Google avec son compte Gmail, ce qui fait qu'après l'indexation des items que vous allez avoir est très orientée, non pas par une algorithmique qui vise à vous donner un panel large de ce qui se passe, mais bien viser ce que Google présume que vous aimerez. Ce qui fait qu'on vous sert la soupe qui vous fait plaisir. Et donc, je vous parle de ça parce que ici, quand vous allez sur les sites qui vous montrent les crop circles, ils sont tous beaux. Ils sont tous réussis et tous très beaux. Si on prenait le temps de farfouiller un peu, on en trouve aussi des ratés, ce qui donne un peu un indice sur si vraiment ce sont des extraterrestres, qui est une des hypothèses qui viennent faire ça. Il y en a qui sont vraiment très ratés. Là, je vous ai mis le crop de Sheffield, qui est assez connu pour être un magnifique, moche crop circle, peut-être le plus moche qui ait jamais été réalisé. Et je pense qu'il y a un mec bourré qui est parti par là-bas. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou alors l'extraterrestre était vraiment éméché. La plus vieille exposition, alors ça c'est pour vous donner un peu la teneur de ce que j'attends de vous dans vos dossiers, refaire l'histoire un peu de la notion, sans y passer trop de temps, mais au moins regarder d'où ça sort, qui sont les premiers à avoir parlé de ça et tout. Donc si vous faites ce boulot-là sur les crop circles, vous allez trouver que la première gravure qui fait état de ça, c'est Invoquer le diable faucheur, The Mowing Devil. C'est dans une gravure sur bois de Hertfordshire en 1678, donc c'est pas hier. Par contre, en 2017, il y a encore de nouveaux crop circles, même en France. Là, c'est à Sarrebourg, enfin, bon, c'est pas en 2017, mais c'est en 2015, mais il y a une série, en fait, vers Sarrebourg, de 2015 à 2017. Le Républicain Lorrain s'en fait des gorges chaudes à chaque fois. Dans le Cher, pas très loin de Bourges, il y a eu ça au mois de juin. Il y a un beau drone qui a été filmé ça. Et puis ici, vous avez le 22 octobre, là, c'était donc il y a deux semaines, hein, dans le Républicain Lorrain, encore un article sur Saint-Avold et les crop circles, entre doute et fascination. Et il y a un monsieur qui est interviewé comme un expert, et qui n'est pas un expert du tout, pour le coup, mais bon, et qui dit « Les auteurs des crop circles sont des êtres de lumière très avancés, très discrets, qui nous protègent depuis très longtemps, mais on ne peut pas les voir. » Hop, et c'est moi, quand j'entends ça, j'entends toujours la licorne invisible et rose. Je vous renvoie au cours numéro 2. Alors après, il faut faire la liste des hypothèses. Et les hypothèses, il y en a plein. Quand vous surfez un petit peu, vous en rencontrez plein. Alors vous avez les extraterrestres qui se posent et qui repartent. Alors on peut se demander pourquoi ça ferait des cercles. Bon, parce que ça serait une soucoupe ronde. Ok, mais si c'est des ronds, des trucs un peu tordus et tout, comment la soucoupe fait ça? C'est un autre problème. L'hypothèse des extraterrestres, les esprits de la Terre. Certains invoquent les esprits de la Terre qui feraient remonter des sortes de borborygmes qui aplatiraient les récoltes. Des vortex plasmatiques. Après, ça se complexifie. Vous avez par exemple Levengood qui est en photo ici, qui défend l'idée des vortex plasmatiques créés par des petits tourbillons locaux d'air ionisé. Ah, il n'a pas de preuve à ça, mais il le pense très fort. Il y a la théorie de Hasselhoff qui s'appelle les balls of light, des boules de lumière qui viendraient faire comme ça, dont certaines ont été un petit peu filmées, mais c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours mal filmé, c'est à chaque fois qu'il y a une preuve de quelque chose de bizarre, c'est toujours fait avec une caméra pourrie, je ne sais pas pourquoi, et toujours de nuit, de dos, en biais, avec un filtre, c'est toujours bizarre. Des tourbillons de vent ont été invoqués, un flux de deutérons a été invoqué aussi, ce qui fera plaisir aux physiciens ici, des chevreuils, mais ne rigolez pas sur cette hypothèse, et des champignons aussi, et je vous dis ça parce qu'il y en a certaines qu'on aurait envie de rejeter, certaines qu'on a envie de prendre. En fait, il faut se méfier de nos envies. Nos envies ne sont pas des bons guides. Parce qu'on peut avoir envie que ce soit vrai, on peut avoir envie que ce soit faux. Peu importe votre envie dans votre dossier. L'idée, c'est que vous regardiez les faits. Après, vous continuez à croire ce que vous voulez. C'est votre affaire chez vous. Mais en science, c'est les faits qui priment. Et donc, il ne faut pas rejeter des hypothèses. A priori, vous allez voir que les chevreuils et les champignons... et puis, il y a les artistes blagueurs. Des artistes blagueurs. Alors, pourquoi je vous parlais des chevreuils et des champignons, parce qu'effectivement, les champignons font parfois des formes rondes. Ça ne ressemble pas beaucoup à un crop circle, il faut bien le dire, mais voilà, pour votre culture générale, sachez qu'il y a des champignons qui s'appellent des mycéliums annulaires. Je crois que vous avez déjà parlé des champignons. Non, je ne suis pas sûr de vous avoir parlé des champignons, mais c'est assez génial, les champignons, parce que ça pousse le corps du champignon. Ce que vous voyez sortir, ce sont les organes génitaux du champignon. Voilà. Et le vrai corps du champignon, il est sous terre. Et c'est tout un réseau filaire sous terre qui est comme ça. Et il y en a certains qui sont annulaires, c'est-à-dire que quand ils fructifient, ils fructifient en cercle. Et puis l'année d'après, ils font un cercle un peu plus large, et ils refructifient encore, et puis, etc., etc. Et les cercles s'élargissent. Il y en a un très beau, j'espère qu'il est encore là, je l'ai vu encore l'an dernier, quand vous allez au col de Vence, comme si vous alliez au Sapet, puis vous redescendez direction Quai en Chartreuse, et là sur le côté, dans une espèce de clairière, il y a je soupçonne que c'est un tricholome de Saint-Georges qui est là. On voit la trace. Mais il y en a trois qui font ça en France, en tout cas le marasme des Oréades et le clitocybe géotrope. Voilà. À titre anecdotique, je vous marque des petits trucs comme ça quand vous relisez, vous vous ennuyez pas, mais sachez que le plus gros champignon suspecté, c'est une armillaire bulbeuse qui s'étend sur plus de 15 hectares de forêt, ce qui est quand même pas rien en termes de rond. Mais ça ressemble pas beaucoup, on est bien d'accord, avec des géoglyphes. Donc on peut balayer cette hypothèse, parce que ça ressemble même pas au fait de départ, c'est-à-dire les photographies qu'on voit. Et puis les ronds de chevreuil, sachez que les chevreuils, un animal que j'aime bien et que j'aime bien observer et tout, ils ont un comportement, notamment pendant le rut, où ils font des espèces de poursuites, et parfois des ronds, ils se poursuivent l'un l'autre, et ils creusent une espèce de rond, parfois même des huit. Et ça fait parfois des traces. Mais vous êtes bien d'accord, ça ne fait pas un crop circle, c'est très joli. Quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de début d'ombre de preuve que les crop circles géométriques que vous avez pu voir avant viennent des chevreuils ou des champignons. On est bien d'accord. Mais donc pour supposer tout ça, je vous laisserai le faire. Tester l'hypothèse de Levengood, regarder celle de Hasselhoff, etc. Mais je voulais juste vous faire toucher du doigt un problème qui s'est posé dans ce cas-là et qui se pose dans plein d'autres cas, c'est le problème des artistes facétieux. Les artistes facétieux, sachez que la grande mode des agroglyphes, c'était la fin des années 80 en Angleterre, et vous aviez deux papilles en 91 qui ont annoncé Doug Bower et Dave Shirley. Doug Bower, je crois qu'il a encore envie, Dave Shirley, il est décédé, paix à son âme. Et un jour, ils ont dit, bon, ok, on avoue, c'est nous. Et on dit, ah bon, mais comment vous faites? On va vous montrer, puis ils ont expliqué comment. Et alors, ils ont eu beau montrer comment ils faisaient, ils ont eu beau expliquer chaque soir comment ils s'y sont pris, ça n'a pas empêché ni les médias de continuer à chaque fois qu'il y avait un nouveau dessin à prétendre qu'il y avait une hypothèse extraordinaire. Et ça n'a pas empêché non plus les gens qui croient en une hypothèse extraterrestre, ça ne les a pas convaincus d'abandonner leur hypothèse extraterrestre, bien qu'il n'y ait pas d'éléments qui fassent pencher pour une hypothèse extraterrestre. Ce qui fait que ce biais-là, si tant est que ce soit vraiment un biais à proprement parler, mais en tout cas l'image qu'on peut accoler assez facilement à ce genre de mécanisme, c'est ce qu'on appelle, ce que je prends ça à Michael Shermer ou à James Randi, on ne sait pas qui c'est qui a inventé le terme, mais on parle de notion d'insubmersible canard de bain en plastique. Imaginez-vous un canard de bain en plastique, là, qui je ne sais pas si vous, quand vous prenez un bain, je ne sais pas si vous jouez avec des trucs, mais ça m'arrive. Ploup. Et vous avez des petits canards de bain en plastique, quand vous avez beau les enfoncer sous l'eau, ils remontent quoi qu'il arrive. Et quand on a envie de croire en quelque chose et qu'on ne se donne pas trop la peine d'aller farfouiller les preuves de manière, avec une heuristique un peu scientifique, et bien en fait, on peut être sûr que le sujet reviendra. Et quand en plus c'est un sujet qui devient un marronnier médiatique, c'est-à-dire quelque chose qui est tout le temps repris, et bien vous aurez sans arrêt le retour sur le métier, comme on dit, vous aurez sans arrêt le retour de ce sujet-là. Alors, on invoque, pour expliquer ça sur le plan psychologique, on invoque souvent la résolution de dissonance cognitive, ce qui est une notion que je devrais introduire la semaine prochaine, mais je vous en touche un mot maintenant. On parle de dissonance cognitive quand on a quand on a une opinion ancrée sur un sujet, quand on a une position bien précise sur un sujet donné, et d'un seul coup, quelqu'un vous apporte des faits qui sont contradictoires avec l'opinion que vous aviez. On remarque chez l'être humain une tendance non pas à prendre les nouveaux faits qui arrivent et qui contredisent notre opinion, et on ne voit pas beaucoup de gens changer d'opinion avec ça, on voit plutôt des gens qui vont résoudre cette dissonance entre les deux états en bricolant mentalement pour soit rejeter les faits, soit pour les incorporer en disant « oui, non mais ça c'est pas pareil, c'est un peu différent, mais quand même, voilà ». Et ce genre de bricolage que je détaillerai la semaine prochaine s'appelle des résolutions hâtives de dissonance cognitive. Nous n'avons pas envie d'être pris en défaut. Ce qui fait que vous avez beau apporter des preuves, et ben, quelqu'un qui est fondamentalement convaincu d'un truc, ça va être très difficile de le faire changer d'avis comme ça, juste sur la base de faits. Ça prend du temps, c'est très très long. Deuxième chose à savoir, c'est que les médias entretiennent ça. Les médias appellent parfois ça entre eux la poule aux œufs d'or. Ce sont des poules aux œufs d'or, ces sujets-là, parce que vous pouvez les remettre sans arrêt, ça marche tout le temps. Le monstre du Loch Ness, c'est pareil, vous pouvez le remettre à chaque fois, bien que les expertises soient faites en long, en large, en travers dans ce pauvre lac. Si le monstre du Loch Ness existe, il est vraiment, soit il est mort, soit il est caché sous un caillou, il est tout petit, mais en tout cas, il est vraiment bien planqué, quoi, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions de grosse ampleur à la recherche de ce brave monstre, et on ne le retrouve pas. Et ça n'empêche pas que 30 histoires les plus mystérieuses ou normales, paranormales, nous fassent ressurgir sans arrêt ces sujets-là. Et puis, il y a notre faute à nous, c'est notre restriction plus ou moins volontaire du marché cognitif, c'est ce que je vous expliquais sur l'exposition sélective, c'est que nous sommes un peu fautifs, parce que quand on cherche sur Crop Circle ou Loch Ness, ou, voilà, on va taper Loch Ness. Les gens de plus de 40 ans, ils ont des excuses, ils sont pas nés avec Internet, ils savent pas faire, quoi. Mais vous avez il y a des plus, il y a des guillemets, il y a des mots-clés qui vous permettent d'aller plus vite vers des informations de plus de type scientifique. Parce que si vous tapez juste Loch Ness, vous êtes certain d'avoir les trois premières pages de Google qui vont vous présenter des choses qui accréditent une hypothèse fantasmagorique. Parce que on sait que ça plaît. À vous de passer derrière le rideau de ce qui plaît pour aller vérifier ce qui est vrai, si tant est que vous vouliez le faire. En tout cas, en cours, ici, c'est l'objet du cours, donc j'en parle. Donc méfiez-vous, nous sommes, et vous êtes vous-même, artisans, artisanes de cette restriction du marché cognitif. Donc faites gaffe. Je vais encore en voir sur cette semaine, qui vont me dire, oui, on a cherché un peu sur tel sujet, puis ils cherchent avec des sabots, quoi. Ils cherchent en mettant un mot clé tout pourri. Si vous voulez des ressources critiques, tapez au moins le mot critique avec. Et si vous ne mettez pas le mot critique, vous allez avoir une pléthore de je ne sais pas si vous regardez, je sais pas moi, des guérisons miraculeuses, si vous voulez avoir des ressources scientifiques, si vous ne faites pas attention à vos mots-clés, vous allez devoir passer 10 ou 15 pages de Google avant d'arriver à un résultat de type scientifique. Vous allez devoir traverser toute la fange de tous les milliards de témoignages, plus ou moins vaseux, dont vous ne pourrez pas faire grand-chose. Arrive parfois une étape qui est un peu compliquée, c'est celle où parfois il y a une étude qui vient accréditer une thèse. Donc là, c'est bien parce que vous avez enfin quelque chose sur lequel vous appuyez, et pour le coup, Hasselhoff a publié, ce qui est assez rare, il a publié dans une revue qui n'est pas une revue de très haute volée, mais il a publié un article pour expliquer pourquoi, selon lui, les crop circles présentaient des pliures de certaines céréales, et au niveau de la pliure, il y avait des modifications génétiques qu'on ne pouvait pas expliquer. Alors là, vous dites, ah, bah, c'est cool, ah, enfin, il y a un papier scientifique. Donc lui, je vais le regarder de près. Et c'est ce qu'on a fait avec des étudiants. On a regardé de près l'article. C'est fastidieux de lire un article de science. C'est en anglais, c'est chiant, c'est compliqué, c'est technique. Et il y a une intro, c'est dense, c'est compliqué. Et on a décortiqué ça. On l'a appelé l'étude moisie. Parce qu'elle était vraiment, en fait, elle est toute moisie. Donc c'est pas parce que c'est publié que c'est bon. Il y a des études publiées qui sont mauvaises. Ce qui rend le travail vachement compliqué, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des études de type scientifique qui sont faites qu'elles sont forcément bonnes. Il faut lire le détail pour voir si elles sont bien faites. Pour le coup, là, celle-ci est mal faite. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est long, qui est sans fin. parfois sur certains sujets. Et je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple, le dernier travail qu'on a fait avec mes collègues, c'était un travail sur l'ostéopathie crânio-sacrée, qui est une branche de l'ostéopathie. C'était est-ce que dans toutes les études qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des preuves d'un mouvement respiratoire du crâne, ce qui est la base de la théorie. Sans ce mouvement respiratoire, il n'y a pas de théorie. La théorie de Sutherland, elle ne tient pas la route. Et on a dû balayer 120 ou 130 balayer, je dis balayer, c'est-à-dire les chercher, les regarder, vérifier des critères d'inclusion ou d'exclusion. Enfin, c'est super fastidieux. Ça nous a pris 6 mois, plus de 6 mois, pour à la fin un papier qui fait un article d'une page et demie. Hein. Mais c'est le prix à payer pour savoir. Donc on ne peut pas faire ça sur tous les sujets. Mais quand on en prend un, il faut le mener à bien. Voilà. Et ce n'est pas toujours facile. Donc quand vous rentrez dans de la publication de type comme ça, c'est pour ça que je vous demande d'aller trouver un expert ou une experte sur votre domaine. C'est que si vous tombez sur un papier comme celui-là, c'est à votre expert de faire le boulot. Alors des gens me disent « Ouais, mais on n'ose pas les contacter. » Mais ils sont là pour ça. Si vous avez besoin d'un article en astrophysique, ben vous allez voir un astrophysicien, une astrophysicienne. Si vous avez besoin d'un article en botanique, vous allez au LECA. Il y a plein de gens qui font de la botanique ici qui vous renseigneront. Hein. Ils sont là pour ça. Théoriquement, ils sont là pour ça. Si vous le faites au dernier moment en leur donnant un seul jour de délai, ils vous diront non. C'est aussi pour ça que je vous pousse à mener vos travaux un peu à l'avance. Ici, je rends hommage... Oui, voilà, il a fait comme un bouquin sur la base de cette théorie bizarre. Et le bouquin s'est très bien vendu. Ça, le problème, c'est que les bouquins qui se vendent bien ne sont pas toujours de très bonne qualité. Ici, je rends hommage à mon camarade Stanislas Anchak, prof de sciences physiques à Lyon, parce que c'est lui qui a bricolé la base de cette diapo il y a longtemps, et elle nous fait toujours autant marrer, donc on l'a un peu améliorée, mais voilà, pour vous faire sentir un peu ce que c'est que le tri des hypothèses. Imaginez qu'on enferme un chat et une souris dans une boîte métallique. 20 minutes plus tard, la souris elle a disparu. Alors on peut envisager plusieurs explications, voici quelques-unes. 1. La souris peut traverser le métal par effet tunnel, le chat non. 2. La souris est morte asphyxiée et son corps s'est décomposé dans un nuage de photons. 3. Les extraterrestres de la planète Mu qui ont enlevé la souris n'aiment pas les chats, ils l'ont laissé. Voilà. 4. Le chat a mangé la souris. 5. La souris s'est transformée en chat. Le chat effrayé a préféré passer dans une autre dimension. Voilà. Vous avez plein de scénarios possibles. Vous avez plein d'explications possibles, mais elles n'ont pas tous le même poids. Vous sentez bien qu'ils n'ont pas le même poids. Pour sous-peser ce poids, je réinvoque l'éternel, l'incontournable, inénarrable rasoir d'Occam. Je ne vous fais pas l'injure de vous redonner la définition, ni en latin, ni refaire l'histoire et tout, de ce principe qu'on doit, en fait, à Aristote, qui lui-même l'a piqué à Empédocle, on s'en fout, les entités ne doivent pas être multipliées plus que de raison. C'est ça que ça dit. Et je vous ai donné plein d'exemples pour vous montrer que quand vous avez plusieurs hypothèses explicatives, il est logique. Ça ne vous dit pas si c'est vrai, mais il est logique de privilégier celle qui est la moins coûteuse sur le plan des hypothèses. Ça ne veut pas dire forcément la plus simple, mais la moins coûteuse. Et ça, parfois, je vois que ça cloche chez beaucoup d'entre nous. Et donc, je me dis, le coût des hypothèses, il faut être capable de sous-peser. Je vous redonne les conditions pour ne pas se couper avec le rasoir. Hein. Le rasoir n'implique pas que l'hypothèse la moins coûteuse soit la bonne. Il dit juste qu'il faut privilégier cette hypothèse avant tout. Je vous rappelle le Dr House, l'histoire que je vous ai racontée de l'épisode 4 de la saison 1, je crois. Et puis la deuxième chose, les solutions qui ont l'air simples peuvent être très coûteuses. Une solution simple, par exemple, c'est Dieu. Quelqu'un qui vous dit « Ah bah, pourquoi il y a ça ?»« Ah bah parce que Dieu. Bah, » C'est simple, Dieu. En fait, non, Dieu, c'est hyper compliqué comme entité. C'est complexe, c'est coûteux de postuler une entité Dieu à l'intérieur du contenu des connaissances. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a fait 2 cours là-dessus. Une autre méthode pour sous-peser ça, c'est... une des rares épistémologues femmes, donc j'aime bien en parler, ne serait-ce que parce que c'est une nana déjà, en plus parce qu'elle est sympa, parce que quand je lui écris, elle me répond toujours hyper bien, c'est bon, en anglais, mais c'est clair, limpide, il y a tout est publié et tout. Et il y a très peu d'articles d'elle traduits en français, mais il y en a un qui s'appelle le bras long du sens commun, en guise de théorie de la méthode scientifique, et dedans, elle introduit une notion que je trouve assez éclairante, bon, donc je la partage avec vous, on l'appelle parfois l'image des mots croisés. Ce qu'elle dit, Suzanne Hack, c'est que la science, c'est quand même une sorte de mots croisés, pas complet. Il y a des gens qui ont déjà travaillé sur une partie, puis il y a des mots qui sont placés, puis il y a des mots à côté qui sont un peu effacés, puis il y a des gens qui ont mis une hypothèse, puis ils l'ont enlevée, et puis là, il y a une partie qui a l'air bien, bien écrite, et on peut penser qu'on va la mettre à l'encre, et c'est un travail qui n'est pas achevé. Mais vous êtes contraint par ce qui a déjà été fait, parce que ce qui a déjà été fait a été fait sur la base d'éléments. Alors, je vous donne un exemple, je sais rien moi. Mettons, là-haut, vous avez... le A de anguille, par exemple. Vous avez le A qui est contraint par... qu'est-ce qu'il y a marqué ? Aquaculture, voilà. Mais mettons que vous ayez aquaculture, ça vous impose le A. Vous avez le U imposé par bouée, d'accord ? Et vous n'avez que ça. Vous voudriez mettre, je ne sais pas moi, annulaire, par exemple, dedans. Vous dites, ah, j'aimerais bien mettre annulaire. Ça me plaît ce mot, je vais mettre annulaire. Mais en fait, si vous mettez annulaire, c'est bien, ça va coller au A, ça va coller au U qui est là, mais le Ali et le tel qui est à côté, qui étaient bien ancrés aussi dans le sol, mais il va falloir le changer. Ça fait que si on veut imposer un mot qui nous plairait, il faut sous-peser le coût que ça va entraîner dans le reste de la grille. Vous avez déjà joué au mot croisé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on ne peut pas se permettre de marquer n'importe quoi ce qui nous plaît, parce qu'on sait qu'on est contraint par les antécédents. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi en science, et on est obligé de faire un état de l'art avant pour savoir dans quelle mesure ça colle ou pas ce qu'on sait déjà. Et si ça ne colle pas, et ben, il faut se restreindre et ne pas écrire le mot qu'on aurait aimé écrire, parce que en fait, le poids donné par les mots qui sont déjà placés nous impose le respect, quoi, et on ne peut pas se permettre de l'effacer. Seulement quand on aura assez d'éléments pour penser qu'on avait raison de mettre ce mot, alors on se permettra d'effacer tous les mots qui sont reliés à ça, et quitte à ce que ça fasse des dégâts entiers sur la grille, si vous avez suffisamment de preuves pour imposer votre mot, ça change votre grille. Vous sentez ce que je veux dire ? Cette image ? Bon, si vous ne sentez pas, vous me direz. On ne peut pas forcer les cases impunément, les connaissances nous contraignent, et c'est mauvais signe quand un champ disciplinaire est isolé, c'est-à-dire quand il est complètement en dehors de tout. Il y a des domaines comme ça, je pense notamment à il y aurait quelques exemples comme ça, surtout dans l'histoire des sciences un peu anciennes, mais il y a des domaines qui flottent et qui sont reliés à rien. Je peux vous donner par exemple, le magnétisme animal ou l'idée de magnétisme comme celui des magnétiseurs. Il n'est relié à rien de ce qui est connu, ni en physiologie humaine, ni en physiologie des animaux, ni en magnétisme, électromagnétisme type Maxwell. Ça colle à rien. Ça ne veut pas dire que c'est foireux, mais ça veut dire que c'est douteux. Parce que normalement, il n'y a rien qui n'est pas interpénétré par les domaines connexes. Donc quand un champ disciplinaire est tout seul et isolé, c'est très mauvais signe. Donc je reprends ma pauvre souris, là. Pour chaque hypothèse, vous pouvez sous-peser le coup. Par exemple, la première hypothèse, il faut un effet tunnel, différentiel, chat-souris, et qui soit possible pour des corps macroscopiques, ce qui n'est pas gagné. Pour la deuxième, il faudrait une souris capable de se décomposer entièrement en photons, ce qui est peut-être possible dans certains astres et certaines conditions, mais c'est quand même pas évident. Et dans la troisième, c'est pire, il faudrait une planète mue, des extraterrestres dessus, qui peuvent enlever une souris dans une boîte métallique et qui n'aiment pas les chats. Vous voyez, enfin, le coup, c'est lourd, quoi. La quatrième, le coup, il n'est pas très grand, parce que c'est connu, la prédation chat-souris. On la connaît, elle est documentée, ça fait des milliers d'années qu'on sait ça, et qu'on peut le constater tous les jours. Et le dernier, évidemment, il faudrait une souris capable de se changer en chat, et bon, c'est même plus la peine d'en parler. Je prends un exemple. Prenons l'exemple des combustions humaines spontanées. On les appelle comme ça dans les médias. À chaque fois qu'on fait un documentaire là-dessus, on parle de combustion humaine spontanée. Vous allez voir pourquoi je mets des guillemets à spontané et que je mets dites avant ou que je mets des guillemets à chaque fois. Je fais attention à ça. La façon de présenter ça dans les médias est pratiquement toujours la même. J'ai pris un exemple ici dans les 30 histoires les plus mystérieuses. Je vous laisse regarder. C'est juste après. Là, je vous ai mis quelques photos de cas de combustion humaine spontanée recensées dans le siècle. Donc c'est plutôt sordide, on est bien d'accord. Et les médias nous scénarisent ça très bien. Je vous laisse même apprécier la musique qui va avec. Toc.
Chaque année, on découvre dans le monde plus de 50 personnes entièrement consumées, réduites à l'état de cendre, et ce sans raison apparente. Plus étrange encore, les objets situés aux alentours des victimes sont épargnés. C'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu, c'est la combustion spontanée. Uruf, petit village lorrain proche de Nancy. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1977, les pompiers découvrent un spectacle d'épouvante. Le corps d'une sexagénaire est retrouvé à son domicile, carbonisé, gisant sur le plancher. Une enquête est ouverte et le capitaine Lorrain est chargé de l'expertise.
Seules les deux jambes et le bras droit subsistaient, alors que le reste du corps était pratiquement réduit en cendres. Il n'y a même pas de brûlure sur les membres inférieurs. Il n'y a pas de cloque. Il n'y a pas de rougeur, brûlure au premier degré. Il n'y a pas de rougeur non plus.
Mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est que certaines parties du corps sont restées totalement intactes.
Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a constaté la présence d'un corps partiellement détruit par le feu, non pas carbonisé, mais calciné.
Un crime, un suicide, ces thèses sont très vite écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Les enquêteurs cherchent alors à connaître les causes du sinistre.
Une étincelle, une compression brusque, un frottement, l'apport d'une flamme, là, il n'y a rien. quelle est l'énergie de démarrage d'un feu sur une personne.
Impossible donc de trouver les origines du feu. Certaines parties du corps sont retrouvées, réduites en cendres. Selon les médecins légistes, même à des températures de plus de 2500 degrés, on ne peut arriver à ce lugubre résultat.
On sait que cette personne utilisée pour se chauffer du fioul, on s'est dit peut-être quand on aurait badigeonné avec du fioul, on a essayé sur des bêtes mortes également, en laboratoire des examens, des expériences avec du fioul, jamais on n'a obtenu de calcination, jamais de cendre. Le problème est là.
Encore plus troublant, les meubles et objets situés à proximité de la victime sont intacts.
On avait une combustion profonde et ponctuelle, avec une destruction du revêtement de sol et du parquet de chêne qui faisait quand même 25 mm sous la partie du corps détruit, alors qu'il n'y avait aucune propagation de l'onde calorifique, aucune propagation de la chaleur. C'est-à-dire que les combustibles les plus proches, du papier, le revêtement de sol à côté, n'étaient pas atteints par les fumées et par la chaleur. Chose aussi paradoxale, c'est que la dame portait des collants. Et on a retrouvé la partie des collants sur les jambes non affectées par le feu. Il n'y a pas eu de propagation du sinistre. Voilà. Le terme, il est net. Il n'y a pas de propagation du sinistre.
Alors, accident, assassinat ou combustion spontanée? Les enquêteurs restent perplexes. Aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée à partir de ces éléments pour le moins troublants. Le rapport d'expertise conclut par ces mots, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène extraordinaire.
Nous avons évidemment conclu à une destruction d'un corps par une combustion extraordinaire, inexpliquée, mais pas naturelle.
Et hop, une petite dernière musique pour la fin. Bon, ce qu'on voit là, c'est l'exemple parfait de marketing médiatique. Il n'y a pas d'expert à proprement parler. Vous avez un pompier qui est tout à fait sympathique. Hein. J'ai respect pour les pompiers, c'est pas le problème, mais il n'est pas du tout scientifique. Il invoque tout un jargon plutôt technique, mais qui n'est pas du tout adapté à la situation. Il n'y a pas de recherche. Le monsieur, il ne propose pas d'hypothèses telles qu'elles ont été déjà défendues dans la littérature scientifique à proprement parler. S'il avait fait ce travail, ce qui, moi, un travail qui me prend à peu près 20 minutes, parce que c'est plutôt bien documenté, ce problème-là, c'était facile de répondre à ces questions. Mais ça n'intéresse pas forcément les 30 histoires les plus mystérieuses. Je le sais, parce que quand ces gens-là nous demandent notre avis sur un sujet et qu'on leur donne une lecture scientifique de la chose, très souvent, ils nous disent « Ah oui, mais on peut quand même pas trop montrer l'hypothèse scientifique, parce qu'il faut quand même laisser le droit aux gens de rêver. » Moi, je sais pas où ça fait rêver qu'il y ait des gens qui crament comme ça sans explication, mais bon, enfin, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment maintenir la poule aux œufs d'or. C'est ce qui fait que, très souvent, on nous invite pas dans ce genre de choses, ou quand on nous invite, c'est pour déformer ce qu'on dit ou faire des coupes dedans. Ce qui fait que maintenant, nous, on se venge, on n'y va plus. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, c'est celle qu'on fait. Alors, si on fait ce travail-là, franchement, un travail qui prend, je vous dis, allez, un quart d'heure pour quelqu'un qui est habitué et peut-être une heure ou deux pour ceux qui ne sont pas trop habitués. Les premières mentions documentées, c'est ancien, je ne rentre pas dans le détail, je vous ai tout marqué, comme ça vous pouvez revoir. Depuis 1773, on parle de ça, et ça a été une grosse controverse, savoir est-ce que c'est un vrai phénomène ou pas, d'autant que personne n'avait jamais pu assister à un tel événement. Pour une raison assez simple, c'est que s'il y a une personne qui se mettait à avoir une combustion en direct devant vous, j'espère que vous l'éteindrez, au lieu de faire « Oh, c'est intéressant, je la prends en photo, attends, je vais regarder jusqu'à la fin ce que ça donne. » Vous ne pouvez pas faire ça. D'accord ? Il y a les premiers rapports, je vous ai mis même une petite image d'un des premiers rapports sur le sujet, et il y a des gens qui s'en sont emparés, et ça a même fait pas mal de bruit au 19e siècle, parce qu'il y a pas mal d'auteurs de fiction qui s'en sont servis, hein, que ce soit Hector Melville, Twain, Dickens, même Jules Verne en a parlé, même Nicolas Gogol. Non, c'est pas la bêtise du jour. Nicolas Gogol s'appelait vraiment Nicolas Gogol. C'est un auteur russe que vous apprécierez probablement, qui a fait pas mal d'œuvres, dont la dernière, il l'a brûlée. Bon, peu importe. Et dans des ouvrages scientifiques, il y a eu pas mal de polémiques. Casper, c'est tout. Certains défendaient l'hypothèse du mythe. Non, ça n'existe pas, c'est pas ça. Puis d'autres qui disaient que le cas ressemblait à une combustion humaine qui avait l'air de venir de l'intérieur de la personne. Et donc, ça a duré un petit moment. Hein. Il y a des publications. Les paramètres, on pourrait le faire sous forme d'énigme maintenant. Les paramètres, je vous les donne. Environ 150 cas décrits. La majorité des victimes sont des femmes, mais pas toutes, mais majoritairement des femmes. Majorité des victimes sont plutôt fortes, mais pas toutes. Majorité des victimes sont portées la boisson. J'oublie un mot. Sont portées à la boisson, mais pas toutes. Donc voilà, vous avez ça en main et il faut faire des hypothèses là-dessus et regarder un peu les conditions. Effectivement, il n'y a pas de propagation du sinistre autour, il y a une calcination du corps, il y a des parties qui restent souvent apparentes. Quand ce sont des femmes, elles sont souvent les jambes, qui sont dénudées, comme vous avez pu le voir sur les photos d'avant. Et après, vous faites la liste des hypothèses et vous en avez plein. Alors, vous en avez certaines qui vont vous faire marrer. Le doigt vengeur de Dieu, mais il y a des gens qui défendent ça. Hein. La bande à Pat Robertson aux États-Unis vous disent c'est le doigt vengeur de Dieu qui punit les femmes pécheresses et qui défonce la bonne femme qui... Voilà. Il y en a un qui s'appelle Arnold, et il est assez marrant, parce qu'il invoque une particule dont on n'a pas vraiment connaissance sur le plan scientifique, mais il dit non, je postule qu'il existe un pyrotron qui circule dans l'univers, et de temps en temps, pas de chance, blabla, il vous tombe sur la courge, et c'est fini pour vous. Il y en a d'autres qui partent sur le versant médecine énergétique, et qui vont vous dire qu'il y a un chakra du corps qui génère un fluide énergétique,